Bien, je suis très contente de vous retrouver sur RSR2, amis auditeurs, en compagnie de Maurice Efti, ethnologue et archéologue, que nous retrouvons donc tous les premiers vendredis du mois dans ces portes ouvertes sur les connaissances. Je rappelle qu'au cours de cette émission, la troisième question de notre concours vous sera posée et que le gagnant s'envolera au Mexique l'année prochaine. Je rappelle aussi notre numéro de téléphone, le 022 21 75 77. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, nous les prendrons directement sur l'antenne. Cela étant dit, Maurice Efti, le mois dernier, nous avions suivi Francisco Pizarro au Pérou. Aujourd'hui, nous allons remonter un petit peu au nord pour atteindre le Mexique. Nous sommes toujours au XVIe siècle. Et grâce au chroniqueur, l'épopée de Hernando Cortés nous est fidèlement retranscrite. Mais qui sont ces chroniqueurs qui vécurent la conquête et en observèrent ensuite les conséquences? Et qui sont les principaux antagonistes de cette épopée?
Eh bien, il faut le replacer tout d'abord les personnages principaux de cette conquête dans leur écrin historique. On pourrait même peut-être rapidement revoir un peu l'histoire des Aztèques.
Je crois que ce serait bien.
Oui, il est vrai que cet empire était un empire jeune. Je l'appelle jeune car il était en plein apogée au moment de l'arrivée des Espagnols. Mexico Tenochtitlan, la capitale, a été fondée en 1325, pense-t-on.
Il avait quand même 2 siècles, cet empire.
Oui, mais d'une façon mystique, ces tribus nomades s'étaient déplacées depuis le nord du Mexique actuel jusqu'à cette lagune de Mexico. Et là, selon une légende, ils se seraient installés au milieu de ce lac, en plein marécage, et ils ont mis presque une centaine d'années avant de commencer à créer une véritable ville. Donc l'empire immense qu'a trouvé Cortés s'est fait en moins de 50 ou 80 ans.
C'est incroyable.
Absolument. Et alors, en replaçant, puisque c'était votre question, ces personnages dans leur contexte historique, nous allons voir que d'un côté, il y a effectivement Cortés, le conquérant type. C'est lui qui, en tout cas, dans un premier temps, sera l'avatar, le double d'une grande divinité mexicaine. C'est un peu le thème d'aujourd'hui de parler également de religion. Eh bien, du côté aztèque, par contre, il y aura l'empereur en place à cette époque, qui s'est installé en 1502 à la cour donc, de Mexico Tenochtitlan. Il se nommait Montezuma. Montezuma, celui qui parle. Et il est indissociable. Ça, il faut bien voir comment était structurée la société aztèque à l'époque. Un empereur était élu, effectivement, mais il était totalement indissociable de son clergé, de sa noblesse. Il était indissociable du poids aussi que représentaient toutes les traditions antérieures. Et puis les mythes et la religion, une religion nouvelle qu'a créée l'Aztèque, la religion de ses ancêtres. Une religion cruelle, une religion où on a mis en avant le sacrifice humain d'un côté et la mort sur les champs de bataille de l'autre. C'est-à-dire c'était les seules possibilités de paradis.
Ce sacrifice humain, on sait d'où il venait?
Eh bien, il est né, naturellement, comme dans toutes les sociétés primitives. Et l'idée du sacrifice humain, c'était en fait que l'homme devait offrir à la divinité principale, le soleil, le meilleur de lui-même, c'est-à-dire l'eau précieuse. L'eau précieuse, l'eau de vie, qui avait chez le précolombien une couleur verte, bizarrement, c'était le sang. Vert, parce que c'est le symbole de la végétation, de la vie. Et ce sang offert pratiquement chaque jour à l'apogée de l'Empire, souvent lors de la dernière inauguration du grand temple de Mexico Tenochtitlan, on a sacrifié plus de 20 000 victimes en un seul jour, en une seule fête, uniquement pour que ces cœurs humains, ce sang, soit offert aux dieux et les nourrissent, puisque les dieux étaient morts pour l'homme, l'homme devait mourir pour les dieux. C'était sa seule finalité.
Et est-ce qu'on sait comment ces victimes étaient choisies?
Elles étaient choisies en fonction des guerres, c'est-à-dire que c'était en général les captifs, les prisonniers, ou parfois par achat, on pouvait acheter un esclave et le sacrifier, ça c'était valable pour certaines classes, comme les marchands par exemple, mais en général, ceci se passait sur le champ de bataille, c'est-à-dire que soit on mourait justement sur le champ de bataille, on accompagnait le soleil, soit on était fait prisonnier, et on mourait sur les autels de sacrifice de la tribu d'en face. Eh bien, l'observateur le plus sérieux du drame qui nous occupe aujourd'hui, c'est incontestablement Bernal Díaz del Castillo. Nous allons suivre ses traces. Il était à la fois un témoin, mais aussi un historien. Et avant tout, il faut le voir comme un simple soldat. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fort peu de culture, mais il avait aussi un œil neuf, en définitive. N'ayant aucune formation universitaire, entre guillemets, il a eu un œil neuf et il a vu les événements aux côtés du conquérant qu'il a suivi. Tout au cours de cette immense conquête. Et c'est aussi un soldat qui a vu l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Et c'est peut-être là le grand intérêt de Bernal Díaz del Castillo. Un soldat qui avait déjà été préparé par de nombreuses expériences antérieures. Il était allé jusqu'au Panama et ensuite il était revenu à Cuba. Cuba qui très vite va devenir la plateforme de cette conquête. Et voilà un homme qui est né en l'année de la découverte de l'Amérique. On pense qu'il est né en 1492 et qui à l'âge de 25 ans allait donc gravir cette gigantesque pyramide. Lorsqu'on connaît le Mexique depuis Veracruz et qu'on voit ces volcans à l'horizon, cette gigantesque pyramide naturelle, cette pyramide qui est surmontée de son temple sacré à 2300 mètres d'altitude, Mexico Tenochtitlan, ce temple qui était dédié au fragile maintien de la vie. On comprend bien que par ce problème de la mort, la vie était alimentée par les arts de la mort, alimentée par ces sacrifices humains. Eh bien, Bernal Díaz del Castillo avait été de toutes les expéditions antérieures au Mexique. Je dis antérieures parce que celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est surtout celle de 1519, celle de Cortés. Mais il y en avait eu deux auparavant. Une en 1517 et une autre en 1518. Elles se suivaient chaque fois en revenant sur Cuba. Elles avaient été faites uniquement pour obtenir des esclaves. On savait qu'il y avait éventuellement quelque chose à l'ouest et Cuba avait déjà été décimé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un incroyable génocide à Cuba. On manquait de main-d'œuvre. Et ce trafic d'esclaves s'est installé très rapidement. Et vous savez que par la suite, il va devenir un trafic de noirs, puisqu'on va même manquer d'Indiens à un moment donné.
Il faut dire qu'on en a tué près de 6 millions hein, dans les Caraïbes.
Les chiffres sont absolument extraordinaires. Ils sont cités souvent par un autre chroniqueur dont nous allons aussi parler tout à l'heure, Bartolomé de las Casas. Mais les chiffres sont difficiles à connaître. Bien Mais sûr. Si on prenait l'ensemble, en additionnant les chiffres de las Casas, je crois qu'on arriverait à plus de 15 millions.
Pour cette région des
Pour
Caraïbes.
La zone des Antilles et en même temps ce qui s'est passé dans la zone mexicaine. Eh bien oui, tous ces chefs étaient donc partis à la recherche d'esclaves et tout comme dans les îles, au Yucatan, cette péninsule qui s'avance dans la mer des Caraïbes, le début du Mexique, eh bien au Yucatan, les Espagnols pensaient qu'ils allaient être considérés aussi comme des êtres extraordinaires. Mais la seule différence, ils pensaient justement qu'ils pourraient aisément abuser des Indiens, mais la grande différence, à mon avis, c'est qu'ils allaient toucher pour la première fois une nation bien structurée. C'est ça. Ils allaient pour la première fois se trouver face à un empire, un pays jalonné de villes extraordinaires. Quand on voit les descriptions de Bernal Díaz del Castillo, qui chaque fois qu'il voit un temple immense ou une petite ville comme Tulum au bord de l'eau, il va immédiatement la décrire comme Séville, comme des villes aussi grandes que celles d'Espagne, plus grandes que celles d'Espagne. Et puis, en arrivant au Yucatan, à part les Mayas, qui vivaient sur ces terres, ils vont rencontrer des Pochtecas. Les Pochtecas, eh bien, ce sont des négociants. Ces négociants aztèques qui étaient en fait des espions. Ils avaient un statut particulier dans la société aztèque.
Ils espionnaient quoi et pour qui?
Eh bien, ils espionnaient pour la capitale, Mexico Tenochtitlan, afin de voir s'il y avait un soulèvement possible dans une région éloignée. Ils allaient visiter les régions qui n'étaient pas encore conquises. En fait, c'était vraiment des espions au plein sens du terme. Et là, chez les Mayas, eh bien, ils vont s'empresser de rapporter la nouvelle à l'empereur, ce débarquement des premiers Espagnols. Et c'est là que l'on peut placer le mythe de Quetzalcoatl. Car immédiatement, lorsque les premiers blancs sont arrivés, on a cru, Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes précieuses, c'est sa traduction, eh bien, cette divinité annonçait en quelque sorte son retour. Et nous allons beaucoup en parler tout à l'heure. Au Mexique, les dieux étaient aussi nombreux, ça il faut bien le comprendre, l'énormité du panthéon précolombien, ces dieux étaient aussi nombreux que les forces qu'ils gouvernent et qui régissent le monde. Mais ils étaient plus nombreux même que ces forces. C'est-à-dire que les grandes forces de la nature étaient commandées souvent par plusieurs divinités. Et en même temps, les plus grands dieux avaient de multiples pouvoirs. Alors on s'imagine la complexité de cette religion. Ils avaient donc des formes multiples. Ainsi, Quetzalcoatl, nous allons en parler, était le dieu qui commande à la fois le vent, c'était son dieu principal. Il commandait aussi l'étoile du matin, c'est-à-dire Vénus. Vénus qui guide le soleil dans sa course, qui permet au soleil de continuer sa course, on comprend son importance. Quetzalcoatl, qui selon la mythologie fort diversifié et aussi s'était jeté un jour dans un bûcher pour enseigner aux hommes l'esprit de sacrifice. Ce même Quetzalcoatl était ensuite ressuscité. Là, on va voir certains parallèles avec notre propre religion, c'est assez curieux. Il est descendu aux enfers, et sous l'apparence d'un homme avec une tête de chien, il aurait ramené des mondes infernaux, les ossements des morts, et leur aurait rendu la vie, enfin il aurait redonné la vie à ces ossements, et ensuite il aurait enseigné les arts et les sciences aux hommes, il leur a enseigné également la culture du maïs, là on commence à voir son importance, cette plante sacrée dans toute l'Amérique précolombienne, et Quetzalcoatl qui fut ensuite trompé par les autres dieux, qui, eux, étaient justement assoiffés de sang, puisque c'était la mise en place d'un système militariste grâce à ces sacrifices humains. Et alors, ces dieux avaient fini par le chasser carrément du Panthéon. Et il avait été chassé au point qu'il était arrivé jusqu'à la mer de l'Est, et que là, il avait été obligé de partir sur cette mer de l'Est. Et Quetzalcoatl, avant sa disparition, avait également promis qu'il reviendrait. C'est là où est le message messianique. Il avait dit « Je reviendrai en l'année de ma naissance ». Or, selon la mythologie, il était né en l'année 1 roseau. Oui, vous vouliez savoir un peu quel était le problème, disons, de...
Qu'est-ce que cela signifie, un roseau, et est-ce qu'on avait des calendriers? Comment est-ce que tout cela fonctionne?
Oui, alors l'année 1 roseau correspondait à une des séries. Mais en fait, lors de notre histoire, en 1517, on était par exemple en l'année 12 maisons. Eh bien, si vous voulez connaître un peu le calendrier, il faudrait d'abord comprendre l'importance du temps, qui n'est pas du tout la même que pour nous. L'obsession du temps. On s'imagine mal que chaque seconde d'une journée, chaque heure d'une journée, était soumise non seulement aux divinités, mais également à ce temps. Tout était combinaison, des combinaisons des dieux, mais aussi du calendrier. Reprenons l'idée d'un siècle. Un siècle, selon la vision mexicaine, on appelait une gerbe. Les gerbes, on les enterrait à la fin de chaque
siècle. Excusez-moi, est-ce que ce siècle faisait aussi 100 ans ?
Non, justement, une gerbe faisait 52 ans.
Uh-huh.
Elle faisait 52 ans qui se composait de 4 séries de 13. 4 fois 13, 52. On pourrait donner un exemple, c'est les 4 couleurs de nos cartes à jouer. Ces 4 séries correspondant, si vous voulez, à nos cartes à jouer. Et elles étaient, chez le Mexicain, l'année lapin, roseau, silex et maison. Ça va être un peu compliqué peut-être, mais c'est intéressant de voir qu'ensuite, on revenait sans cesse au premier jour de l'année solaire. Or, même l'année solaire, il l'avait naturellement subdivisée d'une autre façon que nous. Il l'avait subdivisée en 18 mois de 20 jours. Il nous manquait 5 jours. On arrivait à 360, il manquait 5 jours. Ils les ont appelés les 5 jours néfastes, les 5 jours creux. Personne n'avait le droit de travailler, tout était bloqué pendant 5 jours. Le monde pouvait s'achever, il pouvait y avoir des problèmes énormes pendant ces 5 jours. Ensuite, la combinaison, donc nombre et signe, du premier jour de l'année, désignait ainsi l'année tout entière, donnait son nom à l'année tout entière. Eh bien, cette combinaison n'apparaissait qu'une seule fois dans un siècle de 52 ans, c'est-à-dire 13 fois 4, puisque nous avons parlé d'une série de 4. Eh bien, si notre année 12 maisons est l'année 1517, pardon, nous allons passer ensuite à l'année 13 lapin, qui est l'année 1518, et nous arrivons à l'année 1 roseau, qui est l'année 1519, celle du débarquement de Cortés. Eh bien, dès le débarquement des premiers Espagnols chez les Mayas en 1517, tous les événements naturels ou climatiques qui vont se produire au Mexique et en particulier dans la capitale vont être interprétés comme des présages funestes. Et Montezuma, justement, le grand Montezuma, était très touché par ces présages. Et les présages, en fait, que nous avons remarqués chez le précolombien sont assez remarquables, et je crois qu'il faudrait peut-être en toucher quelques mots de ces fameuses prédictions.
bien, nous avons une auditrice au téléphone. Oui, madame. Allô.
Bonjour, c'est madame Gabrielli, à Confignon.
Bonjour, madame. Vous pouvez poser votre question à Maurice Efti?
Oui, je voulais lui demander s'il y avait d'autres calendriers que le calendrier solaire dans ce monde précolombien.
Oui, bonjour. Effectivement, chez l'Aztèque, il y a eu plusieurs calendriers. Nous n'avons parlé que de ce calendrier basé sur l'année solaire, mais déjà à une époque beaucoup plus reculée, chez les Mayas en particulier, on avait inventé une succession fabuleuse de calendriers. Je crois que le plus important d'entre eux, c'est un calendrier de 260 jours. Un calendrier magique, un calendrier agricole, qui lui était aussi basé sur le système vigésimal, c'est-à-dire des séries de 20. Nous avions donc 13 séries de 20 jours qui revenaient. Et l'avantage de ce calendrier de 260 jours, c'est qu'il se recoupait avec le calendrier solaire lorsque les deux roues se mettaient en mouvement. Imaginons deux grandes roues, elles n'allaient retomber l'une sur l'autre qu'à la fin de 52 années solaires, c'est-à-dire la gerbe dont nous avons parlé tout à l'heure, et en même temps de 73 années de 260 jours. C'est-à-dire que le point d'impact à la fin d'une gerbe était identique pour les deux calendriers. Et en même temps, chez ces précolombiens, il y avait également le calendrier de Vénus, qui lui fonctionnait différemment. Si j'ai bonne mémoire, c'est un calendrier qui fonctionnait sur des séries doubles, c'est-à-dire qu'il fallait attendre deux cycles de 65 ans, ou quelque chose comme ça. Là, j'ai un petit trou de mémoire, les chiffres sont difficiles. Et en définitive, c'est seulement, excusez-moi, après 104 ans, c'est-à-dire deux cycles de 52 ans, un cycle vénusien et en fait deux cycles avec le 73, qu'on finissait par retomber à nouveau sur les trois calendriers qui pouvaient se rejoindre après deux gerbes. Vous voyez à quel point la complexité du calendrier était importante à l'époque précolombienne. Et ainsi, on pouvait déterminer également tous les systèmes d'horoscope. On pouvait savoir à chaque heure si l'heure était positive ou négative, si votre naissance serait positive ou négative. Et d'avance, un peu comme chez les Chinois, vous étiez condamné par votre horoscope.
Voilà, madame.
Merci, c'est passionnant. Merci infiniment.
Merci de votre appel, madame.
Au revoir.
Maurice Efti, nous avons eu un autre téléphone, malheureusement la personne n'a pas pu rester, elle, à l'autre bout du fil, qui posait la question suivante. Pourquoi utilise-t-on le mot Eldorado dans le titre de cette émission et que représente la légende de l'Eldorado?
Et oui, ce serait peut-être le moment d'en parler avant la fin de ces émissions. J'ai choisi le titre de l'Eldorado tout simplement parce que le mythe de l'Eldorado est resté très longtemps valable pour la colonie, enfin pour le colon, pour le conquérant. L'Eldorado, en espagnol, c'est la traduction du doré, el dorado, le doré. Eh bien, nous avons aujourd'hui trouvé la raison de ce mythe. Il y avait le mythe de l'Amazone aussi, enfin il y en a eu beaucoup qui ont été créés de toutes pièces. Mais l'Eldorado a une raison. En Colombie, un pays fort mal connu à l'époque, celle qu'on a appelée la Nouvelle Grenade, eh bien en Colombie, il y a un lac qui se nomme le lac de Guadavita. Et sur ce lac, chaque année, un prince de la région avait pour tâche de s'enduire, lors d'une grande cérémonie, de s'enduire de miel. On le badigeonnait de miel et de cire, et ensuite il devait se rouler dans de la poudre d'or. On le dorait entièrement. Ensuite il montait sur un radeau, et dans une cérémonie fantastique avec musiciens, on l'amenait jusqu'au centre du lac, où ce prince devait se baigner, et attendre que sa poudre d'or se soit dissoute avec la cire, avec le miel. Et ensuite, on retournait sur les rives du lac, et là, toute la tribu avait pour charge de jeter des bijoux d'or. Vous savez qu'en Colombie, on a eu énormément d'orfèvrerie, et ainsi est née cette légende de l'Eldorado qu'on a recherchée pratiquement dans toute l'Amérique latine, et surtout dans les zones les plus perdues, c'est-à-dire l'Amazonie.
Et qu'on n'a pas retrouvé, mais ça permet de rêver quand même. Alors, on va revenir peut-être, Maurice Efti, si vous le voulez bien, chez les Aztèques. Et moi, j'aimerais en fait savoir quel présage il y a eu pour annoncer cette venue des Blancs, Cortés et ses troupes.
Eh bien, nous connaissons certains de ces présages grâce à un autre chroniqueur, et qui se nomme Sahagún, qui lui a justement étudié dans un collège, enfin il a donné des cours plus exactement dans le premier collège fondé au Mexique pour les indigènes, le premier collège fondé à Tlatelolco, donc dans la capitale, tout près de Mexico, Tenochtitlan. C'est un quartier de Mexico, Tenochtitlan. Et là, de l'intérieur, en véritable ethnographe, il a voulu connaître l'histoire des indigènes, connaître cette histoire aztèque, mais aussi la religion et tout ce qui avait, disons, découlé de la conquête et surtout dans l'avant-conquête. Donc il a été au courant de tous ces présages pendant les années qui ont précédé la venue de Cortés. Et ces présages ont été très sérieux, puisqu'il y a eu d'abord une série de tremblements de terre, il y a aussi des inondations. Une chose fort particulière, on a parlé d'une éclipse, mais d'une éclipse qui pour nous est d'autant plus étrange. Il s'agirait de l'étoile Vénus qui aurait été capable de cacher le soleil. Mm-hmm. Et on comprend bien l'idée, puisque le soleil, c'était leur divinité principale, et que Vénus, c'est notre...
guidait le soleil.
Notre Quetzalcoatl, justement, notre serpent à plumes. Bien sûr qu'il guidait ce soleil. Eh bien, ce serpent à plumes, c'était justement l'ennemi du mal, l'ennemi des sacrifices humains, l'ennemi de la mort aussi, de la souffrance. On l'avait appelé le prince de la vie, le dispensateur de vie. C'était le dieu civilisateur par excellence.
Ce qui changeait avec les autres dieux, en quelque sorte.
C'était un dieu positif pour notre vision des choses.
Oui, bien sûr.
Effectivement, par rapport aux autres dieux basés sur ce système militariste. Le quatrième présage serait apparu dans le ciel de Mexico, peu avant l'arrivée des Espagnols. Il s'agissait d'une comète. Une comète énorme qui aurait passé, naturellement, d'est en ouest, puisque les Espagnols sont arrivés par l'est. Et on s'imagine les habitants de Mexico, Tenochtitlan, se mettant à hurler. Vraiment, c'était la seule chose que ces astrologues, ces savants ne pouvaient pas prévoir, une comète. Chez nous, je crois qu'aujourd'hui, enfin, tous ces phénomènes continuent à avoir une importance démesurée. Je crois qu'on craint tout autant aujourd'hui les tremblements de terre ou l'arrivée d'un signe céleste. Eh bien, ils craignaient, ça c'est une autre notion qu'on pourrait soulever chez l'Aztèque, ils craignaient en fait toujours la fin du quatrième soleil. Leur mythologie est complexe. C'était le quatrième monde. Il y avait déjà eu trois créations antérieures. Donc, trois destructions antérieures, trois cataclysmes, trois fins du monde. Et les Aztèques attendaient un jour ou l'autre cette fin du monde, cet apocalypse. Et là, on le comprend justement, puisque...
Mais ils la prévoyaient donc à court terme.
À court terme, elle pouvait se produire à chaque fin de gerbe.
Ah, oui.
Et là, on l'attendait avec des famines, la guerre et la destruction totale de l'Empire par des tremblements de terre. Donc c'était la fin de ce quatrième monde éventuel. Bon, alors revenons peut-être à notre année 1500. On est bloqué à l'année 1518, cette année 13 lapins. Les Blancs reviennent le long de la côte pour la seconde fois, et là l'empereur donne un ordre assez particulier. Il oblige ses scribes, ses peintres, à descendre au Yucatan, et à... en particulier à faire attendre l'Espagnol, c'est-à-dire à bien le recevoir, à le recevoir comme un seigneur, à le recevoir comme un dieu. Et ceci permet à ses scribes et à ses peintres de décrire, de dessiner ces Espagnols afin de renseigner un peu mieux l'empereur pour savoir si vraiment c'est une divinité. D'ailleurs, il avait même envoyé des historiens qui, eux, étaient arrivés avec leurs manuscrits pictographiques et avaient présenté des manuscrits correspondant à la légende de Quetzalcoatl pour voir si le blanc se reconnaissait dans ces pictogrammes.
Et tout ça démontre à quel point cette société était déjà très, très évoluée.
Elle était raffinée, même. Lorsqu'on décrit les sociétés précolombiennes, on arrive à un taux de raffinement qui nous choque parce que le système de raffinement découle souvent de cruauté pour nous, pour notre interprétation des choses. Mais pour eux, c'était le paradis, c'était la meilleure des choses. Eh bien, ils vont s'observer pour la première fois et on remarque déjà là l'antagonisme, l'opposition entre Espagnols et Indiens. Chacun essaye de trouver dans l'autre son propre miroir. Les Indiens, les Aztèques recherchent une divinité qui leur correspond et l'Espagnol ne voit en face que des infidèles, des gens à conquérir, mais surtout des gens à
christianiser,
bien sûr. Et le seul qui est au volant, si vous voulez, qui conduit le destin, eh bien c'est le hasard en ce moment. Alors, ce qui nous intéresse aussi, à part l'idée de Quetzalcoatl, c'est qu'il pouvait éventuellement être aussi un dieu vengeur, obligatoirement, puisqu'il revenait, il allait prendre le pouvoir, et ainsi, l'Espagnol lui-même avait peut-être le droit d'être un soldat du Christ, si vous voulez. Il se croyait en droit d'imposer ce dieu de croisade, et lutter, justement, comme il l'avait déjà fait en Espagne, contre les infidèles, et... on comprend justement ce côté des croisés, mais aussi ce côté renaissant, puisque nous en avons parlé tout à l'heure sur le premier programme, les Espagnols étaient aussi des hommes de la Renaissance, après tout, en tant qu'aventuriers. Eh bien, si ces Espagnols ont été pris dès le départ pour des teuls. Les teuls, c'était une déformation du mot théotl, qui voulait dire Dieu, Dieu, bien sûr. C'est assez curieux d'ailleurs de voir que la linguistique dit théos dans d'autres langues. Hein. Les dieux étaient inconnus pour ces peuples, bien sûr, mais ils avaient donc instantanément le droit de vie et de mort, ils avaient le droit d'imposer, de disposer du destin de chacun sur les terres de cet empire, qui appartenait uniquement aux dieux et non pas à l'empereur. Et il faut bien comprendre aussi cette différence de l'importance de la religion. Malgré tout, le système théocratique restait en place dans un système militariste. Le jeu diabolique avait commencé, Cortés pouvait maintenant arriver, il pouvait l'achever. Il n'avait qu'à attendre l'année 1 roseau, 1519.
Je voudrais rappeler notre numéro de téléphone, le 022 21 75 77, pour les auditeurs qui auraient d'autres questions à vous poser, Maurice Sefti. Moi, j'en ai une, bien sûr, qui est le problème du fatalisme, ce fatalisme indigène face à l'espagnol. On en parle vraiment beaucoup, mais en fait, qu'en est-il réellement et pourquoi cette soumission, ou tout au moins cette soumission apparente?
Je crois que c'est simplement parce que les précolombiens, c'est-à-dire ces Aztèques, au XVIe siècle, face aux Espagnols, se sentirent immédiatement abandonnés. Abandonnés par leur propre Dieu. C'est la naissance même de ce fatalisme. Les Aztèques étaient devenus tout à coup des orphelins. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est bien ça, face à leur Dieu. Et nous allons voir comment et surtout pourquoi ils étaient orphelins. Ils avaient tout abandonné devant ces prophéties, devant ces avertissements, ces signes qui annonçaient en fait leur propre chute. Ceci était étroitement à leur conception, cette conception cyclique du temps. Il faut s'imaginer le temps comme une grande roue, justement. Oui.
Est-ce qu'elle broie tout sur son passage, absolument, comme Victor Hugo le disait?
En tout cas, chez l'Aztèque, c'est certain. C'était même pas le temps, c'était les temps, puisqu'il y avait chaque fois ces coupures parfaites. Ces temps, ces époques, ces cycles, qui étaient des mesures concrètes, des forces, des valeurs aussi, qui avaient l'obligation de se consommer en revenant à leur point de départ. Ça, c'est une notion opposée à la nôtre. Mm-hmm. Nous, on le voit en spirale. Le Mexicain le voyait vraiment comme un retour parfait et un mouvement qui était justement un retour immuable, une renaissance.
On revient toujours à l'origine.
Constante, absolument. Disons, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le temps se répétait inlassablement. Eh bien, les Espagnols n'étaient que les destructeurs de l'ordre momentané, d'un de ces cycles. Ils permettaient l'achèvement d'une ère cosmique, donc du départ des anciens dieux, le retour d'autres chefs, d'autres lois, et pourquoi pas d'une autre religion. Eh bien, l'empereur, les nobles, les sacerdotes n'ignoraient pas, enfin, ils savaient que le soleil, celui qu'on appelait l'aigle suprême, leur dieu, Huitzilopochtli, ce dieu du soleil, ce dieu de la guerre aussi, ce dieu tribal, doublé de Tetzlatlipoca, des noms un peu compliqués, mais qui lui était le côté négatif, le côté obscur, le frère ennemi de Quetzalcoatl, ne serait donc jamais des compagnons sur cette terre de ce fameux serpent à plumes. Ainsi, fatalement, le monde allait basculer, il devait basculer, rien ne serait possible contre de telles puissances. L'homme ne peut pas lutter contre les dieux. Et quoi faire lorsqu'on a affaire à un cataclysme ou à une fin du monde? Eh bien, Cortés appareilla, pour revenir un peu à notre conquête, Cortés appareilla le 9e jour de l'année 1 roseau. Il est parti de Cuba le 10 février 1519. Il y a eu encore d'autres présages cette année-là. On a remarqué que les eaux du lac s'étaient mises à bouillir. Certainement un problème volcanique. Mais enfin, on s'imagine la panique. Et puis il y a eu un événement un peu particulier. On a ramené à l'empereur un héron cendré, une grue. Un héron qui portait naturellement une aigrette sur la tête, mais qui avait dans cette aigrette un miroir. Ce qu'on appelle un miroir d'obsidienne, cette belle pierre vitrifiée, obscure. Et à l'intérieur de ce miroir, l'empereur et ses nobles auraient vu des bêtes à six pattes arriver et remonter de la côte sur Mexico-Tenochtitlan. Et à l'instant où cette vision est apparue, le héron aurait disparu. Il y a même eu des animaux bizarres, il y a eu des enfants à deux têtes qui seraient nés cette année-là. Enfin, chaque présage était donc interprété.
Cette bête à six pattes, c'était les
c'était
chevaux
avec les chevaux espagnols, avec les deux jambes, bien sûr, qui créaient cette espèce de centaure extraordinaire.
Et qui allait impressionner beaucoup les Aztèques.
Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'ils n'avaient aucun animal de trait à cette époque au Mexique. Le lama, c'est beaucoup plus au sud. Eh bien, le jeudi saint, notre flotte espagnole mouille dans la baie de San Juan de Ulua. C'est donc tout près de Veracruz, de l'actuelle Veracruz, qui a d'ailleurs été fondée par Cortés. Et le vendredi saint, ça c'est curieux, bizarrement Cortés n'a pas voulu débarquer le jeudi saint. Il n'a débarqué que le vendredi saint. Or le vendredi saint de cette année-là, c'était le 9e jour du vent. Or le 9e jour du vent, chez les Aztèques, c'est le jour anniversaire. C'est la fête principale que l'on consacrait au serpent à plumes précieuses. T'imagines la somme de hasards et de présages qui se sont accumulés autour de cette aventure. Eh bien, quelques heures plus tard, à 400 km de là, grâce au coursier, l'empereur était au courant. Il savait que Cortés était descendu du bateau habillé de noir, la couleur cérémonielle du dieu, et naturellement qu'il était arrivé le jour même où il devait arriver.
Est-ce qu'on n'avait pas dit aussi qu'il devait revenir un dieu blanc et barbu qui viendrait de l'Est?
C'est une couleur intéressante. Le blanc, c'est aussi une question intéressante, le blanc est une des couleurs de Quetzalcoatl. En fait, il s'agit plutôt de la couleur de l'horizon lui correspondant. Un dieu avait souvent quatre parties, comme les quatre horizons. Et en définitive, l'Est, c'était la couleur blanche. Il y a eu confusion. Il est bien clair que la peau blanche... Mm-hmm. Parce que lorsque vous peignez un pictogramme et que vous mettez le Quetzalcoatl de l'Est sur votre pictogramme, vous le faites en blanc. C'est-à-dire qu'il est peint en blanc pour qu'on sache que c'est celui de l'Est. Lorsqu'on met une couleur verte, par exemple, s'il s'agit de Vénus, chaque couleur est interprétée par rapport. C'est-à-dire que les pictogrammes ne sont pas à lire, ils sont à décrypter également par les couleurs.
Donc c'est une fausse interprétation.
C'est une fausse interprétation, mais qui a dû avoir une importance pour le côté Est égale blanc. Ça, c'est certain qu'elle a eu une certaine importance, peut-être, disons, sur le plan de l'interprétation, faite aussi par les scribes et les historiens aztèques.
Et qui rajoutait un hasard de plus. Ou est-ce qu'on peut appeler ça hasard, d'ailleurs?
Oui, c'est assez délicat. Mais l'Espagnol, en tout cas, ignorait à cet instant, ça c'est vrai, que Cortés, ou plutôt le Christ, puisqu'il venait au nom du Christ, portait justement le masque de cette divinité, donc de Quetzalcoatl. Eh bien, sur la côte, dès que l'Espagnol a débarqué, dès qu'il commence à pénétrer à l'intérieur des terres, son arrivée est interprétée comme une libération pour toutes les populations. Pourquoi ? Eh bien, parce que toute cette zone venait d'être colonisée par l'Aztèque. Donc, il payait. L'empire aztèque ne fonctionnait que par des tribus. La conquête n'était pas une conquête au sens d'un empire où nous l'entendons. Ils payaient simplement tribu à la capitale et gardaient leur relative autonomie. Mm-hmm. La seule chose qu'on pouvait éventuellement faire, c'était produire des guerres particulières, ce qu'on a appelé les guerres fleuries, où on choisissait volontairement... Oui, c'est un très beau terme, mais on manquait de guerre, on manquait de sacrifiés. Ainsi, on se disait entre chefs de tribu, nous allons de telle date à telle date faire la guerre uniquement pour que vous ramassiez des prisonniers, que nous en rapportions d'autres afin de pouvoir les sacrifier chacun à nos dieux. Eh bien, Lorsque Cortés est arrivé à Cempoala, la première ville importante, le premier centre cérémoniel important, immédiatement toutes les cités-états de la région se sont ralliées aux Espagnols. Et en quelques jours, eh bien, Cortés était suivi par plusieurs dizaines de milliers d'indigènes. Une nouvelle armée s'était créée derrière lui. Et d'ailleurs, les Espagnols vont les imiter puisqu'ils vont changer leur armure contre ces fameuses cotonnades, ces duvets de cotonnades qui permettaient d'être mieux protégés contre les flèches et les massues indiennes. Ensuite, il va monter jusqu'à 2000 mètres au pied de l'Itzosihuatl et du Popocatépetl, ces grands volcans. Et là, ce sera l'horreur. Oui, c'est le massacre de Cholula. Cholula, c'est peut-être une des plus grandes villes sacrées de l'époque.
C'est entre Veracruz et Mexico.
C'est entre Veracruz et Mexico, c'est près de l'actuel Puebla. Donc c'est sur ce haut plateau, juste en face de ces deux volcans, Mexico étant de l'autre côté de cette chaîne volcanique. Eh bien là, à Cholula, Cortés croit à une trahison et c'est le plus grand massacre de la conquête du Mexique. Une conquête et un massacre qui a surtout été beaucoup critiqué par un autre chroniqueur.
Qui est Bartolomé
de las Casas, qui lui était le défenseur des Indiens. À l'inverse de Bernal Díaz del Castillo, lui, tout au long de sa vie, il s'est insurgé contre le comportement des conquérants et surtout des premiers colons.
Mais je crois qu'au départ, il a suivi le mouvement et c'est après coup qu'il a fait une conversion, non ?
Totalement, puisqu'il a eu lui-même une encomienda, c'est-à-dire qu'on lui a offert des hommes et des terres et que son père s'était lui-même occupé d'esclavage. Donc c'est une idée qui lui est venue assez tard, après avoir vécu justement
à Hispaniola. Ce qui est d'autant plus
remarquable. Il a absolument changé au moment où il est devenu sacerdote, il est devenu le défenseur type. C'est défenseur avant la lettre des droits de l'homme, et qui a dénoncé les atrocités, la cupidité, le cynisme des Espagnols. Et cet homme qui se battra contre la nocivité de ce système mis en place, le système d'exploitation, le système colonial, ce système de partage des terres et des hommes que lui-même connaissait. Les Espagnols qui avaient personnalisé, incarné les dieux, vous voir cette nuance, aussi ces dieux les plus raffinés, les plus doux de cette civilisation, n'étaient en fait, à un moment donné, que des criminels qui, par leur comportement, reniaient également leur propre religion. Et c'est ça que critiquait beaucoup Las Casas. Ces soldats, ils étaient ambivalents, ils étaient très particuliers. Ils étaient capables de braver les autorités indiennes. Au milieu de dizaines de milliers d'indigènes, ils étaient capables d'escalader eux-mêmes sans ordre, enfin sans appui de la cité-état dans laquelle ils résidaient. Ils montaient les pyramides en chantant un Gloria in excelsis Deo, par exemple. Ils détruisaient les idoles qui jetaient en bas des marches. Et ensuite, ils faisaient venir des maçons qui raclaient les murs, ces murs qui étaient
couverts de sang,
encroûtés vraiment de sang. Donc, ils raclaient les murs des temples. Et ils les faisaient ensuite blanchir à la chaux. Et puis, les charpentiers venaient pour dresser un autel où on plaçait la Vierge et l'enfant. Et au sommet de la pyramide, au sommet du temple, on plaçait naturellement la croix. Et puis, il y avait des cierges et des prières. Et bien, ces mêmes hommes, qui, au fond, étaient des chrétiens fervents, qui croyaient à cette croisade, qui portaient d'ailleurs la croix sur la poitrine, étaient aussi capables de mettre le feu à ces mêmes palais, de détruire ces temples, de tirer au canon sur la foule, comme le dira Las Casas, de dévaster des villages entiers, de décapiter, de brûler, de pendre, parfois simplement pour le plaisir. Et ça, on le remarque très souvent, le plaisir de tuer. Ils nourrissaient leurs chiens de viande, de chair humaine. De violer aussi, bien sûr, de marquer au fer rouge ces Indiens pour savoir à qui ils appartenaient.
C'est l'horreur.
Ah, c'est l'horreur. Tel un bétail, ils étaient utilisés ensuite. Ils devaient marcher et travailler au fouet pendant tout le XVIe siècle, pratiquement, de transformer en or, transformer ces barres d'or qui étaient en fait au départ des joyaux, et même de communiquer, ça c'est le dernier fléau, de communiquer la variole, les grandes maladies, la rougeole, il y en a eu d'autres. C'est peut-être les seuls fléaux que l'Espagnol a infligé à sa population, à toutes ces populations indiennes, sans en être totalement responsable. On comprend qu'en énonçant tout cela, eh bien, Las Casas avait pu susciter tant de remous à son époque et même depuis sa mort. Il est mort très tard, à 88 ans.
Oui, ce qui pour l'époque
est mort en 1500. Oui, c'est beaucoup. En 1566, il s'est battu jusqu'à la fin pour ses indigènes, mais il a divisé véritablement le monde et les opinions en deux camps. Il y avait tout d'abord les défenseurs de la conquête, parce qu'ils existent, bien sûr. Lorsqu'on est créole dans ces pays-là, on défend naturellement la conquête. Ils l'ont annoncé comme étant un sinistre inventeur de la légende noire, cette légende qui existe pour l'Espagne. Ils avaient dénigré Enfin, il trouvait que Las Casas avait dénigré la grandeur de l'Espagne. Et puis de l'autre côté, il y a les apologistes qui l'ont vu justement comme le protecteur type des Indiens. Et puis c'est seulement, disons, à partir des indépendances américaines qu'on va multiplier l'éclosion donc des indépendances, va multiplier cette idée de la protection, puisqu'on va le faire, on va le nommer premier apôtre de l'Amérique latine. Mais c'est peut-être l'occasion à propos de Las Casas de poser la
troisième question de notre concours, oui. Alors je vous laisse faire.
Eh bien, c'est une question qui se rapporte justement à Bartolomé de Las Casas, pour lequel j'ai
beaucoup de tendresse,
beaucoup d'admiration. Nous venons de parler de ce défenseur, de ce chroniqueur humaniste, et dont la conscience a tellement dérangé son époque. Dans un de ses plus célèbres réquisitoires, il se réfère à la conquête du Mexique, justement, et en particulier au massacre dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le massacre de Cholula. Un massacre où il prétend que pendant que l'on passait au fil de l'épée 5 à 6 000 Indiens qu'on avait parqués, on s'imagine ce massacre absolument volontaire, eh bien le capitaine des Espagnols chantait. Non seulement il chantait, mais il faisait même référence au sentiment d'un certain empereur. Et là, j'aimerais bien que vous me disiez de quel empereur il s'agit.
Alors, si vous connaissez la réponse à cette question, si vous savez qui est cet empereur, et pour autant bien sûr que vous ayez déjà répondu aux deux questions précédentes, il faut nous la faire parvenir d'ici la fin de la semaine prochaine, soit jusqu'au samedi 15 novembre à Le Temps d'apprendre, Radio Suisse Romande, 1211, Genève 8. Maurice Efti, nous sommes donc maintenant à Mexico, qui est la plus grande ville du monde au XVIe siècle, puisqu'on estime alors sa population à 500 000 habitants. Certaines chroniques parlent même d'un million d'habitants. Alors, comment se fait-il que l'empereur Montezuma ne s'oppose pas à l'entrée de Cortés et de ses soldats dans sa ville? Enfin, tout ça a l'air très, très surprenant.
Sur ce point, tous les chroniqueurs sont d'accord. C'est-à-dire que dès que l'empereur va ouvrir les portes de Mexico Tenochtitlan, puisque c'est le nom complet de la ville à cette époque, dès que l'empereur va venir au devant de Cortés, voyons comment était Mexico. Une ville immense, qui était partie de rien, posée sur des lagunes énormes qui prenaient tout le centre de cette grande vallée, et des digues qui partaient du centre, et qui permettait d'arriver jusqu'à terre.
Une espèce de Venise.
Une véritable Venise, et peut-être même plus vaste que la Venise de l'époque.
Oh, sûrement.
Absolument. Et en arrivant au bout de la digue, eh bien, l'empereur va accueillir Cortés comme un semblable. Il va lui offrir des présents somptueux, il va ensuite même l'accompagner à pied.
Mais il ne sent pas que c'est l'ennemi, alors.
Il le prend comme un égal, donc comme un dieu éventuel. Mm-hmm. C'est assez controversé. Mais on sent tout de même cet immense respect, même si derrière, dans la pensée, disons, de Montezuma, Mexico était peut-être la meilleure trappe, le meilleur piège pour anéantir ces Espagnols, c'est vrai.
Oui, mais c'est une souricière quand même.
C'est vrai que c'est la souricière parfaite. D'ailleurs, il va les placer dans un palais, en plein centre. Ils sont entourés justement par ces centaines de milliers d'individus. Mais Montezuma n'a eu que des messagers. Il n'a jamais vu Cortés. Il n'est peut-être même pas persuadé que c'est un dieu. Il pense que c'est peut-être même seulement le messager d'un dieu, et que le vrai dieu, ce serait Charles Quint, qui serait resté en Espagne, puisqu'on pensait que Quetzalcoatl, à un moment donné, c'était peut-être Charles Quint, et que Cortés n'était qu'un envoyé. Mais il n'était pas sûr, il devait lui-même l'apprendre et le savoir. Et ainsi, il vient donc accompagner Cortés à pied, il descend de sa chaise à porteur, et on s'imagine aussi la foule qui, elle, se met à genoux et n'a pas le droit de voir l'empereur.
Jamais.
Jamais, on se met carrément à terre et on se cache le visage afin de laisser passer l'empereur et Cortés, son égal, son frère à ce moment-là. Eh bien, on peut dire qu'à ce moment-là aussi, les Aztèques avaient déjà perdu. Ils avaient perdu la partie. La lutte finale, parce qu'il y a eu une lutte, hein, lorsque Cortés a perdu à cause d'un de ses capitaines la ville de Mexico Tenochtitlan, il a dû revenir et reconquérir la ville en faisant véritablement la guerre, en construisant des brigantines particulières pour pouvoir voguer sur ce lac. Eh bien, la lutte finale qui a suivi ressemble étrangement, moi je l'appelle un suicide. C'est un suicide collectif.
Mais comment est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer?
Prenons un exemple. Même les successeurs de Montezuma, je pense à Cuauhtémoc, l'aigle qui tombe. Voilà encore un nom très particulier. Le dernier empereur s'appelait l'aigle qui tombe, le soleil qui tombe. Eh bien, Cuauhtémoc était le plus jeune, c'était le plus vaillant, le plus virulent des empereurs. Puisque Montezuma est mort quelque temps après, il a certainement été assassiné. On ne sait pas exactement quelles sont les circonstances de sa mort. Peut-être empoisonné ou simplement tué par son propre peuple. Eh bien, cet empereur s'est battu comme un diable. Mais en fait, on a l'impression qu'il était déjà persuadé de sa propre défaite.
Il savait, c'était la fin.
La fin était naturellement acceptée.
Est-ce qu'il l'avait lu dans ce miroir?
Non seulement dans le miroir, mais les mythes d'ensemble, comme nous venons de le voir, nous amènent à cette mort. La fascination exercée par les Espagnols semble avoir été déterminante, c'est vrai. Les dieux, enfin, qu'ils soient dieux ou qu'ils soient messagers des dieux, ces blancs étaient l'inconnu, mais une inconnue sacrée, une inconnue divine, à croire que les Aztèques se laissèrent séduire par l'idée de la mort, d'une mort prochaine, de leur propre civilisation. On pense à Rome.
Oui, Byzance.
On pense à Byzance, bien sûr. Mais la grande différence, pour moi, eh bien, c'est que on avait affaire à une culture jeune. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une centaine d'années à peine que l'Empire était vraiment un empire. Il était en pleine évolution. Tout était encore possible pour l'Aztèque. Mais par le passé, si on recule un peu dans l'histoire précolombienne, les Mayas, l'immense inconnu, les Toltecs, qui sont déjà les précurseurs et qui vivaient un peu plus au nord que les Aztèques. Les bâtisseurs de Teotihuacan, lorsqu'on visite la pyramide du Soleil et de la Lune, qui a été construite en l'an zéro de notre ère, eh bien, tout semble avoir été fauché, renversé, à l'apogée, chaque fois à l'apogée de leur gloire. Il s'agit donc bien d'un suicide collectif, y compris pour les Aztèques, une fascination de la mort, tout simplement. Dès que les signes célestes lui sont contraires, eh bien, le précolombien abandonne tout, il accepte sa défaite, je le répète, une défaite suivie par cette victoire éclatante. Et cette victoire, eh bien, c'est celle du conquérant, bien sûr, qui n'aura aucun problème, qui aura tout le loisir pour imposer, et disons-le tout de suite, sans réaction populaire, pratiquement. Car nous n'avons parlé que de la noblesse, nous n'avons parlé que de l'armée. Mais le peuple entier s'est soumis aux pires choses.
Mais est-ce que c'est parce que justement on était dans cette année roseau,
non,
que la roue tournait et que fatalement il fallait accepter cette invasion?
Le peuple ignorait toute cette base religieuse. Le peuple était ignorant au point qu'il ne vivait que par sa magie, sa sorcellerie. On lui dictait tout d'en haut. Ça, il faut le comprendre comme
donc
ça.
Donc il était déjà soumis, lui.
Il était mais peut-être plus soumis qu'il ne le sera par la colonie espagnole. Le fatalisme indigène existe non seulement face à l'Espagnol, il existe face au chef de l'époque, aux précolombiens eux-mêmes. Quand on s'imagine...
C'est un fondement de culture, déjà.
Le côté négatif, le nihilisme, si on ose aller si loin, de la conscience même du peuple précolombien est totale. Si un jour vous devez faire une cérémonie, c'est que votre sorcier tribal vous l'a indiqué, ou que lui a reçu l'ordre par quelqu'un en dessus, et vous montez ainsi toute la pyramide de pouvoir, que ce soit justement ce pouvoir théocratique qui fonctionne en même temps que ce pouvoir militaire. Et les systèmes de caste existaient pratiquement aussi fortement qu'en Inde, pas sur le plan religieux, mais plutôt sur le plan civil. Mais par contre, la seule porte ouverte qu'on laissait au peuple, c'était la porte militaire. C'est-à-dire que, par exemple, un simple même esclave pouvait, à la limite, par sa valeur guerrière, devenir un jour chef, et même peut-être, pourquoi pas, premier ministre, serpent-femme. Mais en même temps, il était sûr, par ce moyen-là, d'accélérer son paradis. Dans la mesure où, de toute façon, il aurait toutes les chances de terminer sur un champ de bataille ou sur l'autel des sacrifiés de ceux d'en face. Il faut bien comprendre cette idée. La pire des morts pour un Mexicain, c'était celle que l'on avait sur sa natte, dans son lit.
Oui, donc il y a une grande importance.
Mourir de cette manière, c'était infamant. Une femme, par exemple, morte en couche, avait droit au meilleur des paradis comme un soldat. Pourquoi ? Parce qu'elle donnait d'avance naissance
à un soldat.
Elle était déjà elle-même un soldat du soleil. Donc elle avait droit aussi d'accompagner le soleil dans sa course. Chez les Mayas, c'est un peu auparavant, disons, comme notion, mais pour vous montrer le côté négatif, les suicidés avaient droit au meilleur des paradis. Parce que si vous êtes capable de vous suicider, c'est que vous êtes capable de donner votre propre vie au Dieu. Allez expliquer ça à un occidental.
C'est ce qu'on retrouve aussi chez les Japonais.
Dans un autre sens, mais avec cette même absolue de la mort, ce même but, cette même visée de la mort. Alors nous avons parlé donc de cette défaite et aussi de cette victoire des Espagnols, qui allaient pouvoir imposer donc leur pouvoir, des structures qui pour nous, aujourd'hui, paraissent totalement aberrantes et cruelles, et la colonie va s'installer pour plus de 3 siècles, pratiquement sans réaction. Les quelques rébellions, il y en a eu, c'est surtout les rébellions indigènes, mais d'indigènes purs, c'est-à-dire d'encomiendas qui sont devenus ensuite des villages, des réductions, comme on les appelait, des villages purement indigènes, qui tout à coup se sont révoltés. Or, toutes ces révoltes ont été basées sur des problèmes messianiques, c'est-à-dire par l'apparition d'un Christ. Par exemple, dans le sud du Mexique, chez les Mayas, on a crucifié au siècle dernier un enfant, afin d'avoir un Christ de couleur. Et à partir de là, tous ces Indiens sont partis sur la petite capitale pour l'attaquer. Donc, le développement de la notion de défense ne se fait qu'en fonction d'une idée possible en religion. Donc, on reste au même statut. Eh bien, Cortés, s'il faut donner une conclusion, Cortés était pour moi aussi l'anticipation de quelque chose d'important pour toute l'Amérique latine, puisque notre sujet, c'est tout de même de traiter l'esprit latino-américain. Il est l'anticipation du spécimen qui sera si fréquent que l'on verra surgir partout dans cette Amérique latine, c'est-à-dire le caudillo, le dictateur, ce type de dictateur qui n'aurait pas pu exister, en fait, sans ce fond culturel indien, sans cette fatalité dont nous avons parlé aujourd'hui. Eh bien, ce pessimisme, cette facilité à comprendre la mort, cette fatalité surtout, cette conscience de la vie et de la mort, pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler le renoncement à la personnalité, le renoncement à l'individualité. Et ça, on le ressent partout dans ces pays et surtout au Mexique. Nous avons parlé des rébellions indigènes à l'époque de la colonie, mais pensons à l'indépendance, pensons à la révolution mexicaine. Première révolution véritable après la révolution française. Quand on pense à 1910, disons, dans l'importance de la révolution face à la révolution russe, par exemple, qui va suivre seulement 7 ans plus tard, cette révolution, c'est une explosion populaire sans aucun ordre. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de personnalité, mais il y a un peuple en bloc, qui, comme à l'époque précolombienne, fonctionne au quart de tour dès que le mouvement est donné.
Mais c'est la masse, ce n'est pas l'individu.
Et là, ça devient uniquement, comme vous le dites, un problème de masse. Et je crois qu'il existe encore aujourd'hui, et on le remarque dans toutes les réactions populaires, en tout cas dans l'Amérique précolombienne, c'est vrai, dans l'Amérique actuelle aussi, pour autant qu'elle soit indienne.
Eh bien, Maurice Eftige, je vous remercie de nous avoir ainsi emmenés à travers l'histoire du Mexique, cette histoire absolument fascinante, par le biais aujourd'hui des chroniqueurs. Nous vous retrouverons le vendredi 5 décembre pour clore cette série intitulée « Aux portes de l'Eldorado » et pour parler cette fois des Libérateurs et de Simon Bolivar. Plus près de nous, lundi prochain 10 novembre, les portes ouvertes sur l'école seront animées, comme d'habitude, par Jean-Claude Gigon. Cette émission fera suite à celle de ce lundi, le sujet étant donc l'effectif des classes. Il est bientôt 11h et les portes ouvertes se referment pour cette semaine. Au micro de RSR2, Viviane Mermogasser qui vous souhaite une excellente journée et qui vous laisse à l'écoute de la Minute Écuménique.
L'homme a toujours brûlé d'être un oiseau, de jouer au-dessus des paysages, dans les courants et la lumière, autour des cimes. Il s'est toujours laissé empoigner par le désir tenace d'échapper à sa pesanteur. Une voilure sans moteur, vaste et légère, voilà un deltaplane. Et l'homme, dans ses sangles et ses cordages, se sent pousser des ailes. Chacun s'envole dans le silence. Il fait confiance à cette toile tendue qui vibre et siffle avec la brise. Il s'élève, il plane.